Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Donc Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 5, on va lire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et on fait un saut de 1500 ans en avant pour nous retrouver dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, où on lira les versets 3 jusqu'au verset 7. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par les apôtres.
Nous commençons cette prédication par trois questions du catéchisme pour jeunes enfants. Donc si c'est pour jeunes enfants, ben on est tous au courant, en principe, à répondre à ces questions. On va voir. Que veut dire croire en Christ? La réponse, avoir confiance en lui seul pour mon salut. C'est des réponses simples. Hein? Question suivante, peux-tu faire cela par toi-même? Non, sans l'aide du Saint-Esprit, je ne peux rien faire de bon. Et question suivante, comment peux-tu avoir son aide alors? Dieu nous dit de prier pour demander le Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Éternel, nous sommes devant ta parole, nous sommes devant ce temps, nous voulons nous mettre à ton écoute. Eh bien, nous implorons l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous approcher de toi. Nous ne pouvons pas comprendre ce que tu veux nous enseigner et nous ne pouvons même pas le mettre en pratique. Mais avec ton œuvre, ta grâce et l'action de ton esprit, toutes ces choses sont possibles. Eh bien, nous nous attendons à toi, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre du cours Perfectionnement biblique, qui a fait que tout à coup, plein de gens sont arrivés ce matin, ici, bienvenue à chacun d'ailleurs, eh bien, nous abordons deux thèmes, dont l'un qui est « Connais-tu ce que tu crois ?» Connais-tu ce que tu crois? Et nous avons vu ensemble que la confession de foi personnelle et celle de groupe, comme confession d'une église ou d'un mouvement, sont très utiles pour savoir ce que l'on croit. Mettre par écrit ce que l'on croit, le comparer ensuite avec des confessions historiques, nous permet d'affermir notre foi, nous permet de l'éprouver, de la faire progresser. Et hier soir, nous avons réfléchi à 10 arguments, 10 raisons d'utiliser la confession de foi. Alors bon, je ne vais pas vous demander de les dire ici, voir si vous avez bien écouté hier soir. Je vais simplement les dire rapidement pour que ceux qui n'y étaient pas puissent aussi recevoir cet élément. Donc 10 raisons ou 10 arguments, des raisons pour utiliser des confessions de foi. Le premier, c'est pour un lien sain avec le passé, une continuité. Je donne juste les titres. Si vous voulez plus, il y a assez de personnes ici à qui vous pouvez vous adresser après le culte. Donc pour un lien sain par le passé, une continuité. Deuxièmement, pour être stable et solide dans la foi. Donc inébranlable parce que je sais en quoi je crois. Troisièmement, pour construire et pas toujours revenir aux fondations. Quatrièmement, pour faire face aux erreurs. Donc on a un appui sur la vérité. Cinquièmement, pour avoir un repère fiable, pour avoir des décisions communes. Sixièmement, pour éviter le solo scriptura, donc une interprétation commune de la parole. Septièmement, pour savoir collaborer, aller faire quoi avec qui. Huitièmement, pour maintenir l'unité. Quand la croyance est explicite, il n'y a pas de surprise. Neuvièmement, pour l'enseigner, c'est un outil puissant de transmission. Et dixièmement, souvenez-vous, dixièmement, pour stimuler l'adoration. Pour stimuler l'adoration, puisque quand on étudie qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a fait, eh bien, on entre dans l'émerveillement. Eh bien, ce matin, nous allons plus particulièrement réfléchir et nous arrêter sur les confessions de foi dans la Bible. Il est vrai que nous n'avons pas de confession de foi telle que le symbole des apôtres que nous avons entendu tout à l'heure, qui résume les doctrines. Mais tous les enseignements doctrinaux sont dispensés en fait dans le récit de l'histoire de l'humanité qui a commencé en Éden et qui aboutit à la venue de Jésus-Christ, hein, qui ensuite se manifeste dans le monde et dans l'Église jusqu'à son retour. Cependant, nous avons trois éléments que nous allons maintenant développer. Le premier, c'est que des personnes ont confessé leur foi en indiquant des éléments clés de cette foi. C'est notre premier point. Et là, c'est vrai que ceux qui ont fait une petite méditation ce matin, se sont déjà chauffés à la chose, parce qu'ils ont lu quelques textes. Deuxièmement, nous trouverons des ébauches de confession de foi dans la Bible, ce sera notre deuxième point. Et enfin, nous verrons que les prières qui nous sont rapportées dans la Bible contiennent des confessions de foi. Donc, premier point, des personnes ont confessé leur foi. Le premier personnage que j'aimerais vous présenter, donc leur foi en Jésus-Christ, le premier personnage va peut-être vous surprendre, qui était avant Jésus-Christ, il s'agit de Job. Job, il parle d'un rédempteur. Il parle d'une personne qui rachète, une personne qui délivre, une personne qui paie à sa place. Il dit savoir qu'il est vivant. Et il expose dans ses mots le contenu de sa foi. Il exprime également ce qu'il croit dans l'avenir, puisque son rédempteur se lèvera le dernier jour. Celui qui peut le défendre, celui qui témoignera en sa faveur, avoir payé pour lui, se lèvera un rédempteur, celui qui a payé. Se lever, c'est prendre position, c'est affirmer son rôle, c'est rassurer. Job croit tout cela. Voilà pourquoi il dit dans Job 19, 25, « Mais je crois que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour. » Donc c'est une confession de foi, il est en train de confesser ce qu'il croit, et là, il parle même de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Le deuxième personnage, c'est un homme fougueux qui va répondre à une question de Jésus. Jésus va d'ailleurs lui dire que sa réponse ne vient pas de lui-même, mais que c'est son Père dans les cieux qui lui a donné cette réponse. Pierre confesse sa foi en disant que le Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament est présent devant lui. Et il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Ainsi, il dit avec des mots ce qu'il croit de Jésus, qu'il vient de Dieu et qu'il est lui-même une partie de Dieu. Et on trouve cela dans Matthieu 16, les versets 15 à 17. Matthieu 16, les versets 15 à 17. Alors je vous le lis. « Mais vous, donc c'est Jésus qui parle, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Le troisième personnage qui confesse sa foi, c'est Nathanaël. Un de ses amis, Philippe, l'a invité à venir vers Jésus. Or, Nathanaël, il est un peu sceptique, surtout que Philippe lui a dit que Jésus venait de Nazareth. Qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Nazareth ? Alors il s'approche quand même, curieux. Et Jésus regarde Nathanaël et il dit que c'est un homme intègre. Et Nathanaël ne comprend pas comment Jésus peut dire cela de lui puisqu'il ne le connaît pas. Alors Jésus lui dit qu'il l'a vu sous le figuier. Nathanaël comprend en fait que ce n'est pas une connaissance humaine normale qui a pu permettre à Jésus de connaître cela. Alors il va répondre en disant « maître ». Donc il reconnaît que Jésus est un maître. Il dit « rabbi », c'est le mot qui est dans le texte. Hein. « Rabbi », »,« maître ». Il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Philippe lui avait annoncé, il était sceptique. Il a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé et il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et lui, il donne un autre élément encore. Il dit que Jésus est le roi d'Israël. Il reconnaît qu'il est le roi d'Israël, ce qui veut dire le descendant promis de David qui a toute autorité. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean. De temps en temps, je vais quand même vous faire lire dans la parole, c'est important. Donc Jean 1, verset 45. Donc Jean 1, à partir du verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, « Oh, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « Mais d'où me connais-tu ?» Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » Une confession. Il confesse ce qu'il croit de Jésus-Christ. La quatrième personne qui confesse et témoigne d'un aspect de Jésus est une femme samaritaine qui a rencontré Jésus au bord du puits. Ils parlent ensemble, la femme dit à Jésus qu'elle croit qu'un Messie viendra, elle lui dit « Oh, il y a un Messie qui va venir », et Jésus, qui est généralement très discret, est ici très clair. Il dit « Je le suis, moi qui te parle ». Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse tout et elle court dans la ville pour témoigner, pour parler aux gens de ce qu'elle a vu. Regardez dans Jean 4, c'est juste une ou deux pages plus loin dans vos Bibles. Jean 4, verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Elle témoigne de ce qu'elle a compris. Et qu'est-ce qui se passe ? Les gens viennent voir. Les gens répondent à ce témoignage. Un témoignage verbal de ce qu'elle croit. Hein, là, il y a encore très peu de choses. Et puis ensuite, les gens vont venir et vont dire, « C'est plus parce que tu nous as dit quelque chose, c'est parce qu'on l'a entendu nous-mêmes que l'on croit maintenant. » Jésus, un jour, indique à ceux qui le suivent que c'est son Père qui donne la grâce de les suivre. Et plusieurs de ceux qui étaient avec Jésus à ce moment-là se retirent et s'en vont. Alors Jésus dit à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre va dire ici une affirmation de sa foi. C'est la cinquième que nous voyons ensemble. Et ici, Pierre souligne que Jésus a les paroles de la vie éternelle, ce qui signifie que Jésus peut donner la vie. Pierre reconnaît également à nouveau que Jésus est le Messie, qu'il vient de Dieu. Alors si on est toujours dans Jean, on continue, Jean 6, et là on arrive au verset 67. Donc c'est juste avant, il y a des gens qui se retirent, puisque Jésus vient de dire au verset 65 que « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père ». Et puis ensuite, verset 67, « Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » La sixième affirmation de la foi nous vient en fait d'une amie proche de Jésus. C'est la sœur d'un de ses meilleurs amis. Et cet ami est mort. Il vient de mourir, c'est Lazare. Et il a une discussion avec Marthe. Et Jésus lui dit quelque chose d'extraordinaire en lien avec la résurrection. Et Marthe dit en mots ce qu'elle croit à ce moment-là. Elle confesse sa foi. Et là, on est toujours dans Jean, vous continuez au chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » De nouveau, un témoignage verbal. Ce n'est pas quelque chose de vague, c'est clair ce à quoi elle croit et elle l'exprime. Et le dernier personnage qui confessera sa foi est un sceptique, c'est-à-dire une personne qui remet en doute ce que les autres disent, qui est prudent, qui ne veut pas s'engager. Hein? Il a besoin de voir pour croire. Alors, on commence à voir de qui on parle ici. Hein, c'est de Thomas, qui ne veut pas croire ses amis, les autres disciples, parce qu'ils lui disent « Mais on a vu Jésus ressuscité. » On dit « Ben, c'est bien, c'est sympa, mais moi je ne le crois pas. Tant que je n'ai pas pu le voir moi-même, je ne le crois pas. » Et lorsque Jésus se présente devant lui, il comprend que Jésus est bien plus que ce qu'il avait pu penser jusqu'à maintenant. Il est Dieu. Thomas se rend compte là que Jésus est Dieu. Et donc on continue dans Jean, hein, vous pouvez continuer dans, au chapitre 20. On a bientôt fini l'évangile selon Jean là. Chapitre 20, verset 25. Les autres disciples lui dirent donc à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous n'avons bien entendu pas fait le tour de toutes les confessions qu'on peut trouver dans la Bible, hein, et dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien aussi. Vous pouvez penser, par exemple, à Rahab, qui a donné une confession très claire qu'elle croyait au Dieu d'Israël quand les espions sont venus chez elle, par exemple. Et vous pouvez continuer à voir tous ces témoignages. Après tous ces témoignages qui nous indiquent que toutes ces personnes ont dit ce qu'elles croyaient, nous pouvons nous poser une question pour chacun ici. Si je venais avec un micro vers toi maintenant, et que je te disais, que dis-tu de Jésus? Que répondrais-tu? Et si je le demandais devant tes collègues de travail, que dirais-tu? Comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, il n'y a pas de confession de foi complète à un endroit dans la Bible, c'est vrai. Mais les gens confessent Jésus-Christ, c'est un élément fondamental. Il n'y a pas de résumé, c'est vrai, de vérité condensé de manière extensive dans des endroits de la Bible, mais on trouve des ébauches de confession de foi, et ceci dès l'Ancien Testament, et c'est notre deuxième point, des ébauches de confession de foi. Or là, on va revenir dans l'Ancien Testament et on va reprendre le texte de Deutéronome qu'on a entendu tout à l'heure, Deutéronome 6. Dieu parle à son peuple et il lui dit qu'il doit craindre l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même qui dit comment il doit le craindre, il doit suivre ses prescriptions et Dieu indique lui-même ce qu'il doit croire le concernant. Donc c'est Dieu qui parle ici. Donc Deutéronome 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est une confession qui indique que nous adorons un seul Dieu. Et ça, c'est Dieu lui-même qui le souligne ici. Donc, une confession de foi qui indique que nous adorons un seul Dieu. Donc ça, c'est une première ébauche. Et d'ailleurs, c'est une confession qui continue d'être utilisée dans le cadre de ceux qui n'utilisent que l'Ancien Testament. Nous qui avons le Nouveau Testament aussi, eh bien, nous continuons à la croire aussi. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Et nous avons d'autres ébauches. Et là, la deuxième, c'est dans 1 Corinthiens 15, qu'on a lu tout à l'heure. Et on en verra ensuite une troisième. Donc 1 Corinthiens 15, nous revenons, comme le disait Marc tout à l'heure, 1500 ans plus tard, au niveau de l'écriture. Alors 1 Corinthiens 15, c'est la confession qui exprime en fait une raison de la mort de Jésus et sa résurrection certaine, parce que de nombreux témoins l'ont vu. Et on pense d'ailleurs que ce texte était utilisé dans les églises comme confession de foi, justement. Donc si on relit versets 3 à 6, hein, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu. » Il l'a reçu. Hein, donc là, c'est pour ça qu'on pense que ces quelques phrases qui viennent sont comme une confession de foi qui était dite dans les églises. « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Hein, ce petit refrain, selon les Écritures, c'est un élément fondamental dans une confession de foi chrétienne. Selon les Écritures. Il était vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il était vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il était vu par Jacques, puis par tous les apôtres. La foi en la résurrection est un élément clé de la foi chrétienne. C'est tellement important que Paul, dans la suite de 1 Corinthiens 15, si on continue à lire ce chapitre, au verset 14, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, hein, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Donc c'est un élément quand même assez fort. Si quelqu'un nous dit « Mais ce n'est pas important, Christ soit ressuscité ou pas », eh ben, ce texte nous dit que c'est faux. C'est très important, c'est fondamental, la résurrection de Jésus-Christ. Et une troisième ébauche de confession se trouve dans Éphésiens 4. Hein, donc on va un tout petit peu plus loin après Corinthiens. Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens 4. Et donc nous commencerons par lire quelques versets qui parlent de l'attitude à avoir. Hein, et ensuite on a une ébauche de confession de foi aussi ici. 4 verset 1. Donc les trois premiers versets, c'est plus l'attitude à avoir. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, en douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. En fait, ce texte de Éphésiens 4, 4 à 6 souligne sept éléments uniques. On a sept éléments uniques ici, je ne sais pas si vous les avez vus, on va les prendre rapidement. Le premier élément, il y a un seul corps. Le corps, c'est l'Église. Il n'y a pas 15 000 peuples de Dieu, si vous voulez. Il y a une Église, le corps de Christ, l'épouse de Christ, si vous voulez. Ensuite, l'Esprit qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas 15 000 sortes d'Esprit, il y en a un, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, l'espérance qui est notre appel à vivre ici-bas comme Dieu le veut, en sachant qu'une place nous est préparée au ciel. Donc on a une espérance eschatologique, c'est-à-dire pour ce qui vient après notre vie, et on a une espérance même pour demain. Aussi pendant notre vie. Et c'est Jésus-Christ. Quatrièmement, le Seigneur qui est notre roi. Personne d'autre ne peut être appelé majesté et régner sur nous, pas même nous-mêmes. Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Cinquièmement, la foi, une seule foi qui est définie par ce que nous croyons. Il n'y a pas plusieurs types de foi. Il y a plusieurs sensibilités, ça c'est possible, mais il n'y a pas plusieurs fois, c'est la foi en Jésus-Christ. Sixièmement, il y a un seul baptême. Le baptême, nous le vivons d'ailleurs qu'une seule fois. On ne se fait pas baptiser tous les dimanches, par exemple. Ça c'est la Sainte Seine qu'on prend tous les dimanches. Le baptême, c'est une seule fois et qui manifeste en fait extérieurement ce qui s'est passé à l'intérieur, qui est donc le baptême du Saint-Esprit. Et septièmement, il n'y a qu'un seul Dieu auquel nous croyons. Donc quand on nous dit autour de nous, mais en fait tous les chemins mènent, enfin tous les dieux, c'est des moyens différents d'accéder à la divinité. Non, nous ne croyons pas cela. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui est présenté dans la Bible. Il y a une troisième ébauche de confession de foi que l'on peut trouver dans Philippiens. Donc dans Éphésiens ici, on avait une ébauche. Et dans Philippiens, on va en prendre une dernière, une troisième ébauche de confession de foi qui concerne qui est Jésus. Dans Philippiens 2, donc c'est juste après Éphésiens. Ce texte explique en même temps l'abaissement de Jésus-Christ, qu'il a vécu, son œuvre et son élévation. C'est un texte qui nous donne plusieurs éléments auxquels nous croyons, parce que la Bible nous l'enseigne et qui fait partie de notre foi ici. Philippiens 2, à partir du verset 5, qui nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toutes ces ébauches de confession de foi ici nous poussent à réfléchir sur qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et être capable de décrire ce que nous croyons. C'est ainsi que nous serons en fait enracinés dans la foi, que nous serons capables de témoigner de ce que nous croyons. Si vous êtes capable de l'exprimer, vous êtes capable ensuite de témoigner. Et j'aimerais prendre encore quelques instants avec vous pour observer un élément qui m'a marqué en faisant un petit peu des recherches. Je me suis dit, c'est assez étonnant. Quand on commence à regarder les prières dans la Bible, qu'est-ce qu'elles renferment ? Et j'aimerais en voir quelques-unes avec vous. Il est intéressant de noter, c'est mon dernier point, la confession de qui est Dieu dans les prières. Il est intéressant de noter que dans les prières qui nous sont rapportées dans la Bible, plusieurs commencent par des confessions de foi de qui est Dieu. Alors, on va en observer quelques-unes pour nous en nourrir. On commence par la prière de Salomon. Donc, je les prends dans l'ordre chronologique. La prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Donc, le temple a été construit et Salomon a prié. Et voici ce qu'il dit dans 1 Roi 8, les versets 23 et 24. Je vous lis. « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit, et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. » Alors là, on pourrait prendre un peu de temps puis voir tous les éléments qui parlent de Dieu juste ici dans le début de la prière de Salomon. Mon idée, ce n'est pas maintenant de faire cette analyse, c'est plutôt de saisir que cela fait partie de sa prière. De comprendre en fait qu'il est en train de dire des attributs, des éléments que Dieu a fait et ça fait partie de sa prière. Néhémie va faire quelque chose d'assez semblable. Néhémie, il est saisi par la situation catastrophique de Jérusalem en ruine après le retour de l'exil. Donc là, on est dans Néhémie, au chapitre 1, verset 5, où Néhémie commence à prier et dit « Ah, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. » Il ne dit pas juste « Hello, je vais te parler. » Il est en train d'exprimer à qui il s'adresse. Et en fait, c'est une manière de glorifier et d'honorer Dieu. Chacun confesse la grandeur de Dieu qui est au-dessus de tout. Et en fait, ça correspond un peu à ce que Jésus nous a dit en apprenant à prier à ses disciples. Il leur a dit, dites, notre Père qui est aux cieux. On est en train de reconnaître en fait qui il est. On est en train de reconnaître, c'est vrai, cette relation avec un Père qui est souverain, qui est au-dessus de tout. On pourrait d'ailleurs encore observer le cantique de Moïse, d'Anne, de Déborah, de Zacharie, de Marie, qui sont des prières qui contiennent des éléments de confession de foi. Enfin, pour que vous me croyez, je vais quand même vous donner quelques éléments de ce que Anne dit, par exemple, dans 1 Samuel 2. Elle dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel fait mourir et fait vivre. » Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. En fait, nous voyons que lorsque on s'approche de l'Éternel, on exprime ce que l'on croit. C'est la raison pour laquelle vous trouverez énormément d'éléments de confession de foi dans les psaumes, en fait. Vous verrez, cet après-midi, les jeunes vont devoir écrire leur confession de foi, donc il y aura du travail. Et puis en fait, quand on veut se baser sur la parole, très souvent on va dans les psaumes, quand on veut parler de Dieu par exemple. Parce qu'en fait, ce sont des prières qui s'adressent à Dieu et qui parlent de qui il est. Tout ce que j'aimerais nous dire à tous, c'est de nous encourager à avoir la même attitude en fait. Pourquoi ne pas prendre l'habitude dans la prière de commencer par reconnaître un ou l'autre des attributs de Dieu ? que ce soit dans notre culte personnel. Et dans votre culte personnel, vous pouvez vous dire, par exemple, ben, chaque jour de la semaine, ben, je prends d'autres attributs pour toujours mieux connaître Dieu. Et puis pas chaque jour dire, Seigneur, je te remercie pour ton amour. C'est extraordinaire ton amour que tu as manifesté. C'est bien. Pourquoi pas encore d'autres attributs en plus? Donc, nous poussons à avoir cette même attitude que toutes ces personnes qui, dans leur prière, parlaient de Dieu, confessaient ce qu'ils croyaient de Dieu. En conclusion, ce matin, nous avons pu constater que la Bible contient des affirmations de foi. Des personnes qui vivaient leur foi, tout simplement. Il n'y a pas à se dire, je dois absolument confesser ma foi. Non, c'est juste quand quelqu'un te dit, tu crois à quoi? Eh bien, tu réponds. Et on dit ce en quoi on croit. Parfois, on peut le susciter, c'est vrai. On peut dire à nos amis, tu crois en quoi, toi? Il le dit, puis après, ben, souvent, il pose aussi la question. Après, vous pouvez répondre. C'est des manières aussi, on peut cheminer, mais sans forcer les autres. La Bible n'est pas un dictionnaire systématique. Il ne suffit pas de chercher un mot, de dire, je vais chercher expiation, puis pouf, on a toute l'explication de l'explication dans un seul texte. Ce n'est pas comme ça, la Bible. En fait, on a plusieurs éléments qui nous permettent petit à petit de comprendre ce qu'est, par exemple, l'expiation. Et Dieu se fait connaître petit à petit. La révélation, elle est progressive. Dieu, en fait, veut nous faire cheminer. Il veut nous faire cheminer. Vous ne savez pas tout? Personne ne sait tout. Non plus, d'ailleurs. De loin pas. Par contre, nous cheminons, nous progressons. Et nous cheminons dans la manière d'être capable de partager notre foi autour de nous, de la connaître, de rester stable, solide et inébranlable. Notre foi, en fait, ne repose pas sur quelque chose de vague. Elle repose sur quelque chose de solide. Et je termine avec ce texte dans Romains 10, qui est un texte fondamental ici, qui dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, donc en disant des mots, hein, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ce matin, les jeunes ont médité sur les confessions des différentes personnes. Ils ont médité sur ce texte aussi. Donc si à la fin du culte, vous aimeriez aller parler avec les jeunes pour dire « ça vous a fait penser à quoi ? À quoi vous avez parlé ?» Ben n'hésitez pas d'aller près d'eux et de parler avec eux. Ils sont gentils généralement. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance parce que non seulement tu nous dis que nous sommes appelés à confesser de notre bouche ce que nous croyons, mais tu nous donnes des exemples de personnes de la Bible qui ont confessé leur foi, qui ont dit qui tu étais pour eux, qui ont dit ce qu'ils comprenaient de toi. Te remercions pour ces personnes qui ont prié et dont les prières nous sont rapportées, qui témoignent aussi de ce qu'ils comprennent de qui tu es, qui en faisant ainsi t'honore et nous permettent aussi à nous de grandir, d'apprendre à mieux te connaître. Et nous te remercions pour ces textes, on pourrait dire ces ébauches de confession de foi où nous avons des éléments qui sont déjà listés, qui sont déjà soulignés pour que nous comprenions l'importance de réfléchir à ce que nous croyons, à être capable de le comprendre et à ne pas rester au lait spirituel mais à devenir mature pour être capable de construire, de manger de la viande, d'être capable aussi d'être des personnes qui témoignent non seulement voilà Jésus même, mais en fait, qui peut témoigner de manière beaucoup plus vaste de ce que tu donnes comme vision du monde, de ce que tu permets de vivre dans la patience, dans la paix, dans cette espérance de l'avenir, enfin tant de choses que nous pouvons développer. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que ainsi nous te glorifions toujours plus et que tu sois, Seigneur, toujours plus cher à nos cœurs. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.